alors je suis un peu, comment dire, je suis pas chamboulé, mais c'est Kiss qui a volé tout ce que j'avais à dire. Je sais pas comment il a fait. Et tout a été si joliment bien dit, tout bien chanté, tout ça, que je me sens un peu petit ce matin. Mais bon, je l'ai travaillé, alors vous allez être obligés de m'écouter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Vous aimez ce psaume? Dans ce psaume 23, David décrit sa relation avec Dieu, son intimité avec lui. Et pour illustrer cette relation, il utilise l'image du berger. Nous connaissons Dieu comme notre rocher, notre forteresse, notre abri, comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs. Mais ici, David décrit Dieu comme son berger. La première fois que Dieu est représenté comme un berger, c'est dans Genèse 48,15, qui dit que Dieu a pris soin de moi comme un berger. C'est Jacob qui dit ça. Littéralement, ça veut dire que Dieu l'a fait paître, c'est-à-dire qu'il a pris soin de lui depuis qu'il existe. Abraham, Isaac, Jacob étaient des bergers. Moïse et David aussi. L'image est très parlante pour un Hébreu de l'époque de David. David était berger dans sa jeunesse et il connaissait très bien le sens qu'il donne à ce nom. Excusez-moi. Pour avoir préservé, défendu ses brebis des lions et des ours. Il a tué Goliath aussi, l'adversaire des brebis du troupeau de Dieu. Et il disait, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Mais ici, David s'identifie à une brebis. Lui, le roi d'Israël, le guerrier, s'identifie à une brebis. Une brebis, c'est un animal qui vit en groupe, et qui a besoin de l'homme comme berger pour le conduire et la protéger. Une brebis ne sait pas s'occuper d'elle-même. Privée des soins d'un berger, elle meurt. Si David s'identifie à une brebis vulnérable, naïve, n'y a-t-il pas un parallèle à faire entre nous et l'image de la brebis? Et ne devons-nous pas reconnaître que nous aussi, nous avons besoin d'un berger? Nous n'avons pas l'habitude de nous voir comme des brebis. Et surtout, Nous n'aimons pas nous voir comme des brebis. Nous préférons nous comparer à des êtres forts, intelligents, indépendants. Toutes ces choses qui nous mettent en valeur. Mais nous identifier à une brebis naïve, fragile, dépendante d'un berger, ce n'est pas une image réjouissante à laquelle nous voulons être associés. Mais en se comparant à une brebis, David n'y voit-il pas les qualités requises pour reconnaître que nous avons besoin d'un berger? L'humilité, la faiblesse, la dépendance et surtout l'honnêteté de se voir tel que l'on est. Le psaume 23 pose une question à tout être humain. Connais-tu ton Dieu comme ton berger? Pour connaître Dieu comme notre berger, nous pouvons lire un passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 40, 11, que je vais vous lire. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein. Il les porte et conduit doucement les brebis qu'il allait. C'est après le retour d'Israël de l'exil babylonien, Dieu les ramène comme un bon berger. Ézéchiel 34, 11 et 12. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Je veillerai sur mes brebis, je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées, un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est Dieu lui-même, en Jésus, qui va conduire ses brebis de l'exil du péché, qui les a chassées de la présence de Dieu, et qui, par Christ, notre berger, lui seront ramenés. Pour connaître Dieu, il faut connaître Christ, notre bon berger. Et c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons la réalisation de ces prophéties. Le psaume 23 est éclairé par Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous voyons ici Jésus être le bon berger. Quand David dit L'Éternel est mon berger, il se confie dans le Messie à venir, Jésus, descendant de David par son incarnation. Jésus a appelé toutes ses brebis de son troupeau par leur nom, et il les conduit dans de verts pâturages. Si nous sommes présents aujourd'hui, nous, ses enfants, c'est parce que Dieu nous a appelés par notre nom. Et que par sa parole et son esprit, il nous conduit. Ceux qui connaissent le bon berger ne manqueront de rien. Tous leurs besoins seront comblés. Si tu ne connais pas Jésus, peu importe ce que tu as, tu manques de tout. Tu manques de la chose la plus essentielle, connaître le bon berger qui veut t'amener dans de verts pâturages pour restaurer ton âme. Ne manquer de rien ici peut être appliqué d'une manière générale à la providence de Dieu. Il comble tous nos besoins en nourriture, en vêtements, enfin tout ce qui est matériel. Mais ici, c'est plus qu'une promesse de la providence générale pour notre vie ici-bas. Pour nous, c'est l'assurance de la vie éternelle. On peut être comblé de tout, ne manquer de rien, mais finir par mourir quand même. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme, il manque de tout. Jésus nous explique comment comprendre le psaume 23 en s'identifiant au beau berger. Il dit dans Jean 10, 27, 28. Mes brebis écoutent ma voix, Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Voilà en quoi David ne manquera de rien. Voilà en quoi nous ne manquerons de rien. Même si tu manques de tout, tu ne périras jamais. Personne ne peut te ravir de la main du bon berger. Cette promesse de la vie éternelle est au-dessus de tout ce que Dieu nous donne ici-bas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que peut espérer de mieux une brebis dans cet environnement sec et rocailleux qu'étaient les paysages de la Palestine? Des verts pâturages, des eaux paisibles. Un lieu de rafraîchissement, de restauration, de repos pour renouveler nos forces. Pour être en bonne santé, une brebis a besoin de nourriture, donc les verts pâturages, de repos, il me fait reposer, et d'un bon berger qui nous dirige, qui prenne soin de ses brebis. Le berger prend le temps d'examiner les pâturages. Il connaît chaque parcelle. Il a repéré chaque endroit à éviter, les crevasses, les ravins. Il conduit son troupeau par des chemins sûrs. Les brebis font confiance au berger. Il restaure mon âme. Le verbe restaurer a plusieurs sens différents, mais qui sont complémentaires. Ça veut dire reprendre des forces. Ranimer le courage, réconforter ceux qui sont abattus, fatigués, affaiblis. Mais cela veut dire aussi réparer. Et c'est ce que procurent les verts pâturages et les eaux paisibles. Ce que désire le berger, c'est que ses brebis reprennent des forces. Le verbe restaurer veut dire aussi ramener. Quand Dieu conduit comme un berger, c'est aussi pour ramener. Il ramène ses brebis comme il a ramené David quand il s'est éloigné des sentiers de la justice. Le Seigneur nous ramène toujours sur ses sentiers. Chaque brebis a du prix à ses yeux. Il me fait reposer. Dieu a promis de nous donner du repos. Nous en avons besoin. Mais ici, je crois qu'il parle du repos du salut. J'en suis sûr. Les verts pâturages représentent l'abondance par laquelle la parole nous nourrit. Elle répond aux besoins de notre âme. Avec sa parole, je ne manquerai pas d'encouragement. Je ne manquerai pas de force, ni de consolation, ni de paix et ni d'amour. 2 Timothée 3, 16, 14 à 16. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la loi, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et unique et utile. Pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Les eaux paisibles, elles parlent de la paix intérieure que Dieu nous procure. En ce matin, ne sommes-nous pas dans les verts pâturages? Près des eaux paisibles, où par sa parole, son esprit, dans la communion fraternelle, nous pouvons être restaurés, relevés, édifiés, ramenés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. On a tous besoin d'un berger. Tout ce qui découle par la suite, dans le psaume 23, résulte de cette déclaration. C'est la condition pour bénéficier de toutes ces promesses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23 est placé dans un ensemble de trois psaumes, 22, 23, 24. On les appelle les psaumes du berger parce qu'ils présentent le berger de trois manières différentes. Le psaume 22 décrit le berger qui donne sa vie pour nous. Il parle de la croix. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils ont partagé mes vêtements. Le psaume 23 parle du bon berger qui prend soin de ses brebis et qui satisfait à leurs besoins. Le psaume 24, lui, parle du souverain berger qui règne, du roi de gloire qui triomphe, qui triomphera, qui règnera à jamais pour toujours. De la même manière que sont placés ces psaumes, nous reconnaissons qu'il faut d'abord accepter Jésus comme notre sauveur, qui a donné sa vie pour nous. Puis, comme le berger qui nous conduit, qui nous enseigne, et que nous devons suivre avec une attitude sincère et une conscience renouvelée par son esprit. Enfin, nous devons le reconnaître comme ce roi glorieux et nous attacher à lui. James Packer, dans son livre « Connaître Dieu », nous dit « Les directives essentielles que Dieu nous donne pour diriger nos vies ne nous viennent pas sous une forme d'inspiration personnelle, étrangère à l'Écriture. L'Écriture que le Saint-Esprit illumine pour que nous puissions la comprendre et l'appliquer à nos vies. C'est comme cela que le Seigneur nous dirige, avec sa parole, son esprit. C'est toujours dans le cadre de ce que dit l'Écriture que Dieu nous inspire, qu'il nous dirige pour trouver la bonne direction dans nos vies. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Sans notre berger, nous sommes perdus. Sans repère, nous sommes incapables de trouver la bonne direction. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, nous dit le psaume 32, verset 8. Ce psaume nous parle de la repentance de David. Elle nous parle de la repentance d'un pécheur. Cela signifie que même après nos échecs, nos fautes, nos errements, notre Dieu est là, il nous ramène. Laissons notre Dieu nous conduire, laissons-le, Seigneur, restaurer notre âme. À cause de son nom, parce que son honneur est engagé dans la préservation de son troupeau. À cause de son nom, il nous conduit dans les sentiers de la justice. En nous montrant sa bonté et son amour, il manifeste sa gloire. Il marche avec nous tout au long de ce pèlerinage qui nous amène jusqu'à sa maison. Ce ne sont pas nos mérites, nos qualités qui nous gardent dans ses voies. C'est lui qui manifeste sa bonté, sa fidélité, sa puissance pour nous garder. La vallée de l'ombre de la mort. Ça correspond d'une manière générale aux différents dangers et aux difficultés qui menacent notre vie. Le soleil n'y brille plus dans cette vallée, où l'inquiétude nous emprisonne. Cela fait référence aussi à une vallée qu'il nous faudra tous un jour traverser, la mort elle-même. Il me semble que l'accent n'est pas mis d'ailleurs sur cette vallée sombre, mais sur le fait que nous ne craignons aucun mal et que nous serons délivrés de cette peur de la mort. Et la raison en est, car tu es avec moi. Seule une brebis paralysée de peur, mais en présence du berger, elle est rassurée. Elle est entre de bonnes mains. Christ a vaincu la mort, il en a anéanti sa puissance. Il est la résurrection et la vie. Alors nous pourrons traverser cette vallée en sachant que nous avons la vie éternelle. Nous sommes dans la paix parce qu'il est là avec nous. Nous restons confiants même quand nous ne pouvons plus rien faire, car il était contrôle de tout, même quand nous ne contrôlons plus rien. Avec sa houlette et son bâton, il nous dirige, il nous secourt et il nous protège. Si une brebis s'égare, il prend une pierre avec le bord arrondi de la houlette et la lance en direction de la brebis, pas sur la brebis. En direction de la brebis, c'est pour qu'elle ne s'écarte pas du chemin. Si la brebis est malade, la houlette permet de crocheter la patte arrière et de l'immobiliser pour permettre de la soigner, sans aucun mouvement brusque. Le berger a des gestes mesurés et rassurants à l'égard de ses brebis. La houlette dirige et soigne, le bâton sert lui à défendre le troupeau contre des animaux sauvages, les loups. Je ne sais pas s'il y avait des renards en Palestine. Sa parole et son esprit nous servent aussi pour nous diriger, nous protéger et nous soigner. Quelle assurance! Personne ne pourra nous arracher de sa main. Là est la différence entre ceux qui ne croient en Dieu que pour satisfaire leurs besoins matériels, leur épanouissement personnel et avoir l'assurance d'être heureux. Et ceux qui ont les yeux fixés sur le berger, qui leur permettra de traverser cette vallée, cette sombre vallée. L'Écriture nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre vie avec Jésus est parsemée de souffrances, d'épreuves, mais notre assurance est qu'aucune créature ne pourra, même pas la mort, ne pourra nous séparer de Dieu. Notre assurance repose sur la foi. Notre assurance face à la mort vient du fait que notre berger a déjà traversé cette vallée pour nous, qu'il a vaincu la mort et qu'il est vivant. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Voilà la raison d'être du bon berger. Sauver ses brebis pour leur permettre de traverser la vallée de l'ombre de la mort. La mort pour nous n'est pas la fin. Ce n'est que le passage, ce n'est qu'un passage. L'apôtre Paul désirait ce jour glorieux parce qu'il savait qu'il allait rencontrer son Dieu. Où nous conduit cette vallée alors? Au-delà de la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui nous attend? La maison du bon berger. Je vais peut-être lire. C'était une coutume dans le Proche-Orient, lorsqu'un banquet était offert, que le maître de maison prépare une table pour ses invités et leur verse à leur arrivée une huile parfumée sur leur tête, en signe de respect. La coupe qui déborde témoigne d'une abondance et d'une générosité du maître de la maison. Nous avons reçu la grâce de Dieu, non pas avec mesure, mais avec débordement. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a pas de fin à la grâce. Elle se renouvelle chaque matin. Elle nous est donnée pour l'éternité. Ici, la grâce prend la forme d'un festin où nous nous réjouissons. Nous oublions nos misères et vivons dans le bonheur, dans un moment de bonheur. Dieu nous délivre. Et il le fait aux yeux de tous. Le repas représente la faveur de Dieu, son salut. C'est comme ça que finira l'histoire. Où allons-nous? À une grande fête, à une grande noce. Luc 13, 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Jésus réunira toutes ses brebis lors du grand festin. Tu dresses devant moi une table. Ça m'a fait penser à la table du Seigneur. Parce que participer à la table du Seigneur, c'est aussi regarder à la table éternelle, à ce grand festin qui nous attend. Toutes nos joies, toutes nos peines auront une fin. Mais le festin vers lequel nous nous dirigeons n'aura pas de fin. Nous serons dans la joie d'une création renouvelée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ici, ce n'est pas une joie terrestre, mais l'espérance d'une joie que nous ne pouvons pas mesurer, parce que nous sommes encore dans ce monde. Mais c'est une joie infinie. Oui, c'est une expression en hébreu qui veut dire « assurément, c'est certain ». Parce que Dieu nous l'a promis et qu'il ne ment pas. Oui, le bonheur, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est parfait. Oui, la grâce, la faveur de Dieu qui nous accorde. Cette grâce qui ne nous sera jamais retirée à cause de son nom. Oui, j'ai l'assurance que ce bonheur de la vie éternelle m'accompagnera. En hébreu, le verbe accompagner veut dire poursuivre. Alors j'ai l'assurance que ce bonheur de la vie éternelle me poursuivra. Car le bon berger est avec moi. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas seulement y revenir de temps en temps, comme nous faisons le dimanche, quand on vient à l'église. Mais il y a ici l'idée d'être réadmis. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Mais je reviendrai, je serai réadmis dans la présence de mon Dieu. David possédait cette joie et cette assurance avant la venue du bon berger, du sauveur. Il avait l'espérance de la vie éternelle. Alors, savourons ces verts pâturages, nous réjouir de marcher sur la conduite de notre bon berger qui nous mènera dans sa maison. Gardez ce psaume 23 dans votre cœur tout au long de votre vie. C'est celui qui vous montre l'espérance de notre salut et la certitude que nous nous retrouverons avec lui pour ce moment de grâce et de festin. Merci à tous.
Merci Antoine.